Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, bon réveil, bon dimanche matin, il est 9h10, vous écoutez RMC, vous avez du goût, on est très heureux d'être avec vous ce matin. Évidemment, pour les grandes gueules du sport, ça va être jusqu'à midi au sommaire aujourd'hui. Nous allons tout d'abord parler du 15 de France qui a réussi sa rentrée en éparpillant le Japon 52-12. Samedi prochain, place à la Nouvelle-Zélande. Ce match va-t-il vraiment servir les Bleus avant les Blacks? C'est la une des GG dans quelques instants. France-Israël, c'est le match de la peur, ce sera jeudi prochain au Stade de France. Une rencontre pesante, vous le savez, dans un contexte extrêmement tendu. Est-ce encore un match de foot? Ce sera le bras de fer des GG à 10h et puis 11h. Forcément, le coup d'envoi de la 10e édition du Vendée Globe. Ce sera donné aujourd'hui à 13h02. Bateau ultra sophistiqué, le confort qui est beaucoup plus mieux, comme on dit dans le jargon, qui est largement mieux aujourd'hui. On se demandera si le Vendée Globe a perdu de sa splendeur. Je sais que Sarah Pitkowski, ici présente, a un amour féroce pour le Vendée Globe. J'imagine qu'elle va me renvoyer cette question. Inico, nous serons avec nos envoyés spéciaux en direct des Sables d'Olonne tout au long de la matinée. Les grandes gueules du sport, je vous les présente ce matin. Une grande gueule qui, comme le Vendée Globe, et comme tout bon pigiste, on sait quand il part, mais on sait jamais quand il va revenir. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, bonjour tout le monde.
Ça va?
Bah oui, oui, oui. Je pars un petit peu moins loin que nos amis du Vendée Globe.
Et on est toujours très heureux de te retrouver.
Ah ben voilà.
Alors il n'y a pas un grand
vous avez l'assurance que je reviens de temps
en temps. Parfois tu pars plus longtemps.
Voilà, c'est vrai, mais bon, c'est pas moi qui choisis.
Une grande gueule qui, comme le Vendée Globe, elle a connu quelques naufrages. Sarah Pitkowski, salut Sarah. Oui.
Salut à tous. Alors le confort, nous sommes dans le confort, JC.
Ah oui?
Oui, dans nos petits fauteuils feutrés, avec nos petits cafés. Ça, c'est du confort. Mais le confort des skippers, c'est autre chose.
J'ai entendu parler des fauteuils sur Animoca, fauteuil comme ça, Formule 1, tout ça, avec le café, le réchaud.
Oui. T'as entendu, mais est-ce que tu as vu
On reparlera de tout ça, évidemment, même si je sais très bien que tu veux déjà commencer ce débat. C'était pour te piquer, évidemment. Une grande gueule qui, comme le Vendée Globe, elle est parfois trop longue. Marion Bartoli, salut Marion.
Bonjour les amis.
Non, on est heureux de
je prends ça comme un compliment, ça veut dire que j'ai beaucoup de choses à dire.
Mais évidemment, ça va Marion?
Oui. C'est pour ça que j'ai ma propre émission d'ailleurs, comme ça pour une heure je peux dire ce que je veux, personne.
Voilà, exactement.
Tu vois,
ah, t'as ton émission. Bah attends, je savais pas ça. On m'avait pas tenu au courant. Marion, t'aimes bien le Vendée Globe toi? T'es comment sur le Vendée Globe?
Écoute, non, j'aime bien regarder. Après, te dire que je me passionne complètement, ça serait mentir. Mais il y a toujours des histoires à raconter. Il y a toujours des avaries, il y a toujours des problèmes. Il se passe toujours des choses. Donc, bien évidemment, que je suis.
Bon, en tout cas, on va en parler à partir de 11h, évidemment. Et puis, ce sera notre fil rouge dans les grandes gueules du sport. Et puis, une grande gueule qui, comme le Vendée Globe, il fait peur aux enfants et aux parents aussi. Hein. Fred Weiss, salut Fred.
Salut. Surtout aux parents d'ailleurs.
Oui, surtout aux parents.
Les enfants adorent les grands, mais les parents ont peur.
Ils aiment bien les grands, les enfants?
Ah oui, bien sûr, ils viennent toujours vers moi. Non, vraiment.
C'est vrai?
Oui. Sarah est venue vers moi directement.
je sais pourquoi, je le sentais venir.
Salue évidemment tout ce que tu as pu faire dans ta carrière, mais aussi ta seconde carrière, ta carrière d'acteur.
Hein. Mais réalisateur aussi, on parle de moi maintenant.
On rappelle évidemment que tu as fait le biopic de l'abbé Pierre. Évidemment, quand tu t'attaqueras à une autre personne, il devrait chuter instantanément. Bravo et ça t'honore, mon cher Fred. On parlait de Vendée Globe, justement, on va retrouver notre envoyé spécial, c'est Maria Zé. Bonjour Maria. Maria est avec nous en direct des Sables d'Olonne.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on t'entend parfaitement, Maria. Tu es déjà au milieu du public. Il y a énormément de monde, comme d'habitude, au Sables d'Olonne. Raconte-nous, décris-nous un petit peu ce que tu vois avec cette remontée du chenal, comme d'habitude, pour les marins.
Bah oui, surtout que ça fait 8 ans, finalement, qu'on n'a pas vu de public sur ce Vendée Globe, ici, au Sables d'Olonne. Donc, le public est arrivé très, très tôt. Il y a des gens qui sont arrivés dès 3-4 heures du matin et apparemment, il ne restait plus beaucoup de place le long du chenal pour voir un petit peu cette grande parade des 40 bateaux du Vendée Globe qui vont défiler. Alors là, les skippers, ils arrivent petit à petit. D'abord, c'est zone mixte. Là, c'était zone mixte il y a quelques instants pour Tanguy Le Turquet qui ensuite va aller en haut du pont pour rejoindre son bateau, son lieu de vie pendant 2 mois et demi. Voilà, sous les applaudissements du public, évidemment, je vous le disais, présent en nombre. Forcément, il y a de l'émotion. Ils vont voir leur famille aussi pour la dernière fois avant 2 mois et demi. C'est long quand même, 2 mois et demi en mer. Donc, il y a quelques larmes, forcément, beaucoup d'émotions. Donc, voilà, c'est vraiment, on sent une émotion, on sent une atmosphère particulière ici. Et je pense que ça présage un très, très beau Vendée Globe.
Oui, Sarah, ce moment est toujours extrêmement prenant. Hein. C'est vrai qu'on reste captivé hein, devant sa télé, derrière son poste de radio, parce qu'on a envie d'entendre et de voir ces images.
Bah, oui, parce qu'il y a un petit côté voyeuriste. On veut voir effectivement si les yeux des skippers sont un peu embués. Et moi, ça me fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on se projette. En tout cas, moi, je me projette facilement en me disant « Ok, je monte sur un bateau. Je ne vais plus voir personne pendant 2 ou 3 mois. »
Et tu te projettes et ça te fait plaisir.
J'ai un peu le cœur lourd parce que c'est séparation. Bah, c'est inimaginable, sachant qu'ils partent dans quelque chose où cette météo, ces intempéries, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et c'est ce qui rend ces gens exceptionnels. C'est pas des fous, c'est pas des gens qui n'ont pas la mesure du risque, mais je trouve ça extraordinaire. Et le fait qu'il y ait ces milliers de gens qui les encouragent, c'est les derniers bruits humains qu'ils vont entendre avant un bon moment.
Et comme on dit dans le jargon, chenal. Merci.
C'est validé.
Comment te dire, c'est nul ça.
Excellent.
Non, oui. C'est nul.
Mais c'est comme ça qu'on commence un bon
Dieu.
Dimanche.
Mon Dieu.
Un cadeau exceptionnel.
Au niveau de l'émission, j'ai peur.
Bah oui.
Et bravo Jean-Christophe.
Un cadeau exceptionnel à vous faire gagner, chers auditeurs. Ça a commencé vendredi. C'est inédit sur Radio Monte Carlo. 100 000 euros à gagner en écoutant RMC. Je vous explique
mais tout
ça.
On ne dit plus Radio Monte Carlo.
Plus tard dans cette émission. Pourquoi on dirait plus Radio Monte Carlo?
Oh non, mais on dit plus Radio Monte Carlo depuis des années.
Depuis un moment, oui.
Mais il faut vivre avec son temps, mesdames. C'était hier soir sur Radio Monte Carlo.
Je vais te ressortir sur le Vendée Globe.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
S'il a le rebond, bien oui, Biarré, attention. Intérieur, il remet intérieur. Ah, Moé Fana, l'accélération de Moé Fana. Il trouve bien Biarré. C'est un contre bien Biarré. À hauteur, on joue dans le dos. Ramos, la passe au pied, c'est cadeau. C'est cadeau pour Gaëtan et ça fait essai. Essai d'Emilien Gaëtan, essai recordé pour l'équipe de France, le premier essai d'Alexandre Oumad dans sa carrière en bleu pour sa 5e sélection et le 3e déjà des bleus. Attention, l'essai français sur la touche, Beato Mbaka sur une combinaison à la sortie de la touche pour déjà le 5e essai français. On relève le ballon avec Jean-Baptiste Gros. Essai de Jean-Baptiste Gros. Essai de Jean-Baptiste Gros. Le pilier gauche de Toulon. Il va jamais se faire sur cet arc. C'est terminé. Victoire de l'équipe de France pour ce premier test face au Japon. 52-12. 8 essais à 2 en faveur des Français.
Jamais le soleil
joue. Pour son premier match de la tournée d'automne, le 15 de France n'a fait qu'une bouchée du Japon. Festival offensif, vous l'avez entendu. Jamais il y a eu match à la pause. Les Bleus menaient déjà 31-0. Le niveau va considérablement monter dans une semaine, samedi prochain, avec la réception de la Nouvelle-Zélande. La musique qui fout les jetons est cette question. Ce match va-t-il vraiment servir les Bleus pour affronter la Nouvelle-Zélande? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Fred Weiss.
Non.
Marion Bartoli.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Oui.
Oui aussi.
Oui aussi.
Ok, avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC qui était hier soir au Stade de France. Wilfried Templier, bonjour Wilfried.
Salut tout le monde.
Salut Wilfried.
Alors quels enseignements vont vraiment retenir les Bleus après cette large victoire?
Bah, on ne mène pas tous les jours 31-0 à la mi-temps d'un match international hein, où on n'inscrit pas souvent 8 essais à son adversaire. Mais la joie a été contenue, hein, il faut l'avouer. Froidement, le sélectionneur Fabien Galthié fait un bilan assez symbolique. Écoutez.
L'enseignement, c'est on est en préparation, on se retrouve. La victoire, bien sûr, c'est la quatrième fois qu'on joue les Japonais. Et donc, c'est important pour nous de maintenir un certain niveau face à eux. Donc, c'est un match de préparation. D'abord, c'est un test match gagné. Et ensuite, c'est un bon match de préparation.
Voilà, je disais symbolique parce que vous avez bien compris, un match de préparation pour la suite, on y revient. Mais s'il y a eu des bonnes choses, du jeu, des essais aboutis, des satisfactions individuelles, hein, nommés principalement Movaca, Meafou, Boudéan, Dupont, Ramos ou Bielbiaré, il y a un petit goût de mission accomplie, mais on en a gardé sous la pédale. Dans un ensemble positif, le capitaine Antoine Dupont ne le nie pas.
consciemment ou inconsciemment, quand on prend le score de manière assez large, il y a toujours un petit peu de relâchement, même si je trouve que je nous ai trouvé quand même assez consistant malgré le score. On a mis de l'intensité dans nos collisions, pas mal d'indiscipline qui leur a permis de venir dans notre camp. Je pense pas qu'on ait été beaucoup breakés, on était quand même en place défensivement et notre animation offensive a été un peu moins présente sur la deuxième partie de la première mi-temps et sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps également. Mais encore une fois, au vu du score, c'est toujours plus difficile d'être aussi consciencieux dans nos placements, dans nos replacements. Mais malgré ça, j'ai trouvé beaucoup de sérieux et une copie plus que positive.
Mais le week-end prochain, ce n'est pas la 14e nation mondiale qui débarque à Paris. Ce sont les vice-champions du monde. Alors avant de jouer les All Blacks, vainqueurs coup sur coup, hein, en Angleterre puis en Irlande, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ce match des Bleus va, face au Japon, va servir, question directement posée à Louis Bielle-Biarré, auteur de deux essais hier soir.
Oui, c'est sûr que ce match va nous servir, mais encore une fois, on sait que la Nouvelle-Zélande sera encore un ton au-dessus et qu'on aura moins d'opportunités, que ce soit en attaque ou en défense, pour être performant. Donc ce match va nous servir, mais voilà, ce ne sera pas les mêmes positions la semaine prochaine.
Non, c'est sûr, mais ça va valoir le détour. Et d'ailleurs, même le sélectionneur japonais Eddie Jones, en conférence de presse, est enthousiasmé et avec ce conseil aux journalistes et à tout le monde, je cite, si vous pouvez avoir un billet, prenez-le vite.
Ok, bah voilà, le rendez-vous est pris. En tout cas, samedi prochain, tu seras en direct du Stade de France. Merci Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Ce match va-t-il vraiment servir les Bleus avant d'affronter donc la Nouvelle-Zélande? Simon Dutin, c'était oui.
Oui, évidemment, Wilfried a rappelé qu'un match international en rugby, de par définition, quel que soit l'adversaire, c'est quand même plus que dans n'importe quel autre sport collectif. Un événement, c'est en termes physiques, en termes d'intensité, mais même psychologique, c'est quelque chose de très fort. C'était la rentrée du 15 de France, la rentrée des Bleus. Bon, bah voilà, à la rentrée, t'attaques pas par la trigonométrie, quoi. Tu vois, tu fais quelques additions, tu te remets en confiance, tu dis bonjour, tu reprends tes marques. Voilà, c'était le retour du patron. On n'avait pas vu Antoine Dupont avec le 15 de France depuis longtemps. Je pense qu'il fallait que tout le monde se réhabitue un petit peu à ça. Il fallait retrouver son jardin du Stade de France que les Bleus n'avaient plus fréquenté depuis un an. Et puis voilà, pour la proverbiale confiance, voilà, retrouver des automatismes, des mecs qui commencent à s'installer en bleu, Bielle-Biarré, des mecs qu'on attendait forcément alors depuis longtemps pour un Gailleton qui était titulaire et qui a marqué, un Roumat en troisième ligne, c'est un poste fondamental qui c'était l'un des choix très très scrutés de Fabien Galthié avant ce rassemblement, Atis Ogbe le palois qu'on attend aussi beaucoup. Bon ben voilà, si tu démarres directement contre une nation très forte avec un match à gros enjeux, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour mettre en place des choses. Donc
il fallait
de la confiance, se retrouver, des sourires et bien préparer une échéance qui s'élèvera à une altitude différente, ça c'est sûr.
Ok, tout était prévu, on affronte le Japon et puis après c'est l'ogre, la Nouvelle-Zélande. Non, ça va pas vraiment servir.
Ben je vois pas en quoi ça servirait. Jouer contre le Japon, il y a pas du tout le même impact physique, il y a pas les mêmes équipes du tout. C'est comme si on disait quand tu fais un jogging, tu penses directement un sprint. Non, il faut des étirements, il faut faire des choses. Donc soit tu vas directement dans le dur et tu sais que ça va être dur et c'est une logique parce que contre les All Blacks ça va être dur. Soit tu te dis, tu fais un petit jogging tranquille, c'est exactement ce qui s'est passé contre le Japon et t'es content. Mais moi je vois pas en quoi tu peux être content de ça. Et il y a rien de négatif à ça. Tu mets des essais, voilà, tout le monde est content, tout le monde est sympa, on a gagné, on a mis 8 essais, tout le monde s'est mis un petit peu dans le bain. Mais quel est l'intérêt réellement pour le match contre les All Blacks, hein? Je parle pas pour l'évolution de l'équipe, oui, parce que c'est des réglages.
Bah, ouais, c'est ça, c'est intéressant.
Bah, oui. Justement,
l'échauffement, tu peux pas faire sans échauffement.
Mais ce que je veux dire, c'est que contre les Blacks, si c'est pas suffisant, quel enseignement tu vas tirer réellement de ce match contre le Japon?
Et parce que tu vas devoir travailler pendant toute la semaine à Marcoussis.
Oui,
et bien justement.
Tu vas travailler dur.
Mais oui, donc en fait, c'est une revue d'effectifs.
Un entraînement où les mecs ont à peine transpiré. Et maintenant,
un entraînement, la meilleure chose, dans n'importe quel sport, le meilleur entraînement, c'est une situation de match.
Oui,
c'est une situation de match. Donc la situation de match, c'est le meilleur entraînement.
Pas contre le Japon, il s'est rien passé, on s'est ennuyé. Moi, je trouvais ça très très mignon. J'ai regardé les bisounours jouer au rugby.
Fred,
c'est sympa. Il y a des essais, mais
c'est quand même beaucoup mieux de commencer par un match face au Japon pour aller chercher les Néo-Zélandais plutôt que l'inverse.
Oui, mais quels enseignements tu vas tirer?
Les enseignements, c'est que hier, il y a une possession de balle qui était trop faible pour une équipe de France. chances, qui était juste au-dessus de 50%.
Ils n'arrivaient pas, ils n'arrivaient pas.
Donc ils défendaient longtemps et ils marquaient vite. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire contre les Néo-Zélandais, parce qu'ils vont se faire marcher dessus. Donc déjà ça, c'est très clair de savoir effectivement qu'il va falloir avoir une possession de balle, monter en intensité. Ils ont joué 40 minutes plutôt extrêmement positif.
Donc tu
en plantant
ils ont besoin
5
de jouer contre le Japon pour savoir qu'ils sont obligés de monter en intensité.
Mais bien sûr, tu as des réajustements.
Il y avait
Tu sais pourquoi hier il y avait une surmotivation? Parce que ce 15 de France doit se réconcilier avec son public. Parce que l'année dernière, à la même époque, on a eu un crève-cœur. Parce qu'avec le tournoi des Six Nations. Mais si,
mais
parce que
tu joues pas. Jouer des équipes faibles, en gros, c'est de savoir si jouer. Oh, pour voir si j'ai compris. C'est jouer des équipes faibles. Est-ce que ça aide?
Mais non, mais t'es obligé de prendre un nouveau départ, Fred.
Exactement.
Mais t'es obligé avec ce qui s'est passé sur quelque chose. T'es obligé de reconstruire. T'es obligé de reconstruire avec tout ce qui s'est passé. Moi, je suis complètement d'accord avec Sarah et Simon. T'es obligé de reconstruire après ce qui s'est passé. Là, on n'est plus dans la fameuse flèche du temps où l'équipe de France gagnait absolument tout. Et tu m'aurais dit, bah, ça sert à rien de jouer sur le Japon. Et je t'aurais dit oui, parce qu'ils étaient tellement en train d'archidominer qu'il fallait vraiment uniquement se protéger aux équipes et aux nations les plus compliquées. Mais avec tout ce qui s'est passé, il faut vraiment prendre un nouveau départ. Je vous rappelle que le dernier match que l'équipe de France a joué, c'était l'année dernière, le 15 octobre 2023, contre les Sud-Afs. Et on sait très bien ce qui s'est passé. Il y a un tournoi à destination 2024 sans aucun relief, une tournée de juillet en Argentine avec toutes les affaires extrasportives, avec une image absolument catastrophique.
Et ce qui est très intéressant d'écouter.
Mais tu es obligé de repartir quasi de zéro. Donc tu es obligé de reconstruire. Il faut que les gars jouent à nouveau ensemble. Il faut qu'Antoine Dupont retrouve son poste.
Grâce au match contre le Japon, ils seront meilleurs contre
mais
la Nouvelle-Zélande.
Mais tu dois repasser. C'est comme si tu me disais, mais ça sert à quoi pour aller gagner un grand chelem? Tu es obligé de jouer le premier tour contre un centième mondial. Bah oui, mais tu es obligé de jouer contre un centième mondial. Tu ne veux pas commencer directement à jouer contre Djokovic en finale.
On était très bons sur les matchs amicaux à la Coupe du Monde 2023. C'est un exemple très concret. On a été excellents contre la Tunisie. Super, tu leur mets 50 points. Premier match de compétition.
Tu parles de basket, hein.
De basket. Tu commences la compétition, t'en prends 30 contre le Canada. Pourquoi? Parce que c'est pas le même impact la Tunisie que le Canada. Parce que la pression qu'ils te mettent, c'est pas la même. Et la Nouvelle-Zélande, c'est exactement la même chose. Le Japon, ils sont sympas. Ça te fait du bien. Tu vas courir sur le pré un petit peu.
La dernière fois qu'on les a joués, ils sont peut-être de ton point de vue bien en dessous, mais la dernière fois qu'on a joué, on fait match nul contre le Japon.
Merci,
Sarah. Exactement.
Donc il faut quand même remettre dans l'ordre des choses.
On les a battus à Toulouse il y a deux ans.
Pardon?
On les a battus à Toulouse il y a deux ans.
Ah bah alors, il y a Toulouse,
mais
facilement.
On a fait match nul en 2017.
Oui, c'était il y a quelques années quand même.
Mais ces matchs internationaux, tu les joues pas assez fréquemment. Les matchs de rugby face aux grandes nations internationales, tu les joues une fois, deux fois dans l'année. Donc il faut bien monter en puissance quelque part.
Mais c'est pas une montée en puissance. Surtout, c'est normal de faire des matchs.
Mais tu peux pas faire que deux matchs.
Mais tu peux pas dire que jouer contre une équipe ultra faible, parce qu'ils ont perdu 64 à 19 contre la Nouvelle-Zélande. Donc ultra faible. Tu peux pas dire que cette équipe va t'aider à franchir directement un mont inatteignable.
Non,
quasiment.
On te fait dire la même chose. C'est-à-dire que
tu peux pas direct attaquer sur les All Blacks.
Et pourquoi?
C'est pas possible. Mais parce que ça fait un an que t'as pas joué.
Est-ce que tu penses vraiment que le match contre le Japon, avec des mecs qui physiquement sont bien en dessous des Blacks, ça va te servir? En fait, le jeu va être complètement différent. Ça va se passer
complètement différent. Mais bien sûr que le jeu va être différent, mais l'équipe de France va jouer différemment aussi. Mais non, ça sert pas à rien. T'es obligé d'avoir des matchs d'entraînement ou des matchs d'échauffement. Tu peux les appeler comme tu veux, mais en quoi pour t'en puissance.
Oui,
mais ça match d'échauffement. Mais t'es obligé de les avoir.
Ça a une importance parce que Fabien Galthié, il est en train d'aussi modeler son équipe différemment. Il a quand même mis des joueurs qui étaient des tauliers. Il les a soit renvoyés à la maison, soit mis sur le banc. Ces joueurs-là qu'il est en train de mettre dans son équipe en prévision de 2027, t'imagines, tu les lances face aux All Blacks? Mais c'est juste invraisemblable.
Eh bien, nous continuons d'en parler dans quelques instants avec Marion Bartoli, avec Sarah Pitkowski, avec Fred Weiss, Simon Dutin et vous, évidemment, au 32-16. Vous êtes fan de ce 15 de France. Venez nous dire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que ça va vraiment servir pour affronter la Nouvelle-Zélande? C'est notre question. On réécoutera Antoine Dupont dans quelques instants. Il est 9h29. Vous écoutez RMC et on retournera évidemment au Sable d'Olonne avant le grand départ de la 10e édition du Vendée Globe. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Simon Dutin, dans une dizaine de minutes. On s'en fout pas des informations à vous donner. Vous me direz si ça vous intéresse, notamment le Paris Saint-Germain qui continue sa promenade en Ligue 1. Bon, c'est plus compliqué en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, tout va bien. Avec cette victoire facile hier soir face à Angers. Et puis évidemment, d'autres informations. Mais restons un instant sur ce France-Japon hier, match du 15 de France, premier match de la tournée d'automne, 52 à 12. C'est la victoire de ces Bleus. Ce match va-t-il servir avant d'affronter la Nouvelle-Zélande samedi soir prochain? Écoutez Antoine Dupont justement sur cette confrontation tant attendue face aux Blacks.
On aime tous voir les All Blacks jouer comme ça en tant que fan de rugby et de ce sport. On voit les belles actions qu'ils sont capables de faire, mais c'est surtout la physicalité, la densité physique qu'ils sont capables d'imposer à leurs adversaires qui a été marquante ces deux derniers week-ends. Et donc au-delà de leurs individualités, c'est ce qui m'a marqué le plus, et je pense qu'ils viendront avec le même état d'esprit le week-end prochain. Donc à nous d'élever notre niveau pour pouvoir répondre à la menace qui arrive.
Et la dernière fois qu'on a rencontré la Nouvelle-Zélande, c'était en match d'ouverture de la Coupe du Monde. Ça s'était très très bien passé pour notre équipe de France. Et c'est vrai que pour cette tournée d'automne, on savait pas trop à quoi s'attendre avec la Nouvelle-Zélande. On s'est dit, est-ce qu'ils vont arriver avec vraiment l'équipe des titulaires? Est-ce qu'ils vont vraiment avoir un niveau remarquable? Il y a cette victoire face au Japon, il y a l'Angleterre, il y a l'Irlande. Et maintenant, il y a la France. Est-ce qu'on peut vraiment trembler, Simon? Est-ce que vraiment se défaire de cette équipe, ce serait un exploit monumental?
Ouais. Moi, j'ai toujours soutenu hein, que malgré les progrès de l'équipe de France, malgré peut-être le creux générationnel, alors là, je vais me faire gronder par Wilfried, mais bon, une équipe de Nouvelle-Zélande un peu moins impressionnante. Enfin, je veux dire, faut vraiment être un pimpin pour partir face aux Blacks et se dire, ouais, ils sont moins forts qu'avant. Les Blacks, ça reste une référence, ça reste un Everest, ça reste chaque fois que tu les affrontes, ça reste le mythe, et on sera jamais, jamais, jamais favori face aux All Blacks. Donc forcément que tu attends ces rencontres avec un petit peu de crainte, de l'excitation certainement, pour se mesurer à ce qui se fait de mieux. Wilfried l'a rappelé, ils sont finalistes du Mondial. Moi, j'en parlais avec Wilfried dans les couloirs hier de la rédac. Il y a cette Coupe du Monde, c'est eux qui sont allés en finale. Hein. Ils perdent le premier match, mais c'est eux qui jouent la finale. Et puis, il y a, je pense, aussi le souvenir, malgré le fait que ça s'est bien passé en Coupe du Monde, le souvenir de cette tournée d'automne il y a deux ans où il s'était fait taper en Irlande, taper en France, et où tout le monde rigolait un petit peu, justement, en oubliant un petit peu le
respect. En disant c'est plus que c'était.
Oui, exactement. Mmh. Voilà, ouais. Le All Blacks, voilà, ça fait plus peur. Ou alors on est devenus les meilleurs du monde. Non, voilà, ça reste la référence. Ça reste un match. Ce sera un exploit si on les bat, qu'on se soit échauffé face au Japon ou pas. Et à ce titre-là, je pense que n'en déplaise à Fred Weiss, que même si ça ressemblait, c'est ce qu'on dit plusieurs consultants dans les médias, à un entraînement à haute intensité hier, ça peut pas faire de mal de régler un petit peu les automatismes, de se remettre à gambader, de voilà, Bielbiara en parler après le match, juste retrouver l'hôtel, les routines, et voilà, il y a pas que la performance, il y a pas que l'intensité qu'il y a sur le terrain, le fait de que les mecs se retrouvent, repartagent du temps ensemble, retrouvent le sélectionneur,
s'habituer à la chatte.
Ouais, exact. Ah bah, il y a, voilà. Non, mais.
Ouais, mais dans un stade,
ça rend la
tu peux aussi avoir la charte aussi, hein,
dans un stade. Ça rend la parole. Il y a quand même ce tournoi de l'an dernier, décevant à oublier. Cette tournée, évidemment, catastrophique en Argentine. Voilà, remettre les têtes à l'endroit, retrouver le sourire et la confiance, voilà.
Et comme disait Simon, ça va bien au-delà de la performance. Je pense que cette équipe de France, nos équipes de France, et je dirais le rugby et le foot, il y a une fierté derrière ça. On a besoin qu'ils brillent. On a besoin qu'ils soient exemplaire. Et cette équipe de France, malgré tout, doit se réconcilier avec son public. Ça passe par des victoires, qu'elles soient contre le Japon, qu'elles soient contre l'Argentine.
Contre le Japon, on s'en fout complètement.
Mais non,
mais par contre, contre le Japon,
il y a 50 000 personnes. Tu l'as vu le match hier, oui. tu as vu cette Marseillaise. Ces gens ont besoin.
Mais parce qu'on aime notre équipe de France.
Mais
c'est autre chose.
Mais on a besoin d'être derrière, ça va au-delà de ça.
Sarah, tu sais très bien qu'en termes de symbolique, tu joues, tu gagnes contre le Japon, tout le monde dit ouais, c'est bien, en applaudissant un petit peu, style salon. Et tu gagnes contre les All Blacks.
Ça va bien au-delà de ce qui se passe sur ce terrain vert. Les gens ont besoin de se rassembler, ont besoin qu'il y ait une victoire, ont besoin d'un élan. Et ces deux matchs au Stade de France, avec le premier au Japon, c'est une programmation qui est parfaite. C'est juste parfait. Il va y avoir encore 50 000 personnes
au transpire samedi à peine prochain. Et t'enchaînes sur un vrai match. Je suis d'accord avec toi.
Alors, tu peux pas dire qu'un mec au rugby transpire à peine. Oui. Les chocs,
t'as pas un sport plus violent
que celui-là.
T'as entendu Dupont qui disait la densité physique, elle est pas possible de reproduire. En fait, quand tu joues contre les Blacks, c'est pas la même chose, c'est différent.
Marion Bartoli.
Pour moi, quand on écoute la réaction des joueurs, c'est très intéressant. Et surtout quand tu lis un tout petit peu entre les lignes des déclarations de Louis Bielbarré après le match, qui a été élu d'ailleurs homme du match, il te dit que la saison passée, entre la Coupe du Monde, l'élimination de la Coupe du Monde, les affaires extra-sportives et tout ce qu'il y a eu à gérer, ça c'était très très compliqué pour eux. Que bien évidemment l'objectif ultime c'est le Mondial 2027, donc ils ont toujours en tête leur échec mais ils se projettent sur l'avenir, et qu'il y a un nouveau système en attaque et en défense. Bon, bah, quand tu as tout ça à gérer, que tu viens de faire 2 semaines à Marcoussis d'entraînement, oui c'est super de s'entraîner, mais comme l'a dit Sarah, rien ne vaut un match, et ça reste quand même un match officiel, on n'est pas en train de faire un match en train de se dire, bah oui mais alors on est à Marcoussis à huis clos et on fait un match avec l'équipe B.
Donc ils ont été capables de mettre en place. Il n'y aurait pas plus d'intensité, Marion ? Il n'y aurait pas eu plus d'intensité que contre le Japon ?
Non, mais bien sûr que non. Là, tu es dans un stade, tu retrouves le Stade de France, tu as 50 000 personnes, tu as la télévision, tu as envie de bien faire, tu as de la pression. Mais bien sûr que non. Mais Fred, tu es en train de me dire que de porter le maillot de l'équipe de France et de faire un match pour l'équipe de France, ça n'a aucune importance. Mais c'est pas générateur de stress. Mais bien sûr que c'est générateur de stress, et bien sûr que c'est important. Donc c'est ce qui va te permettre la semaine prochaine d'élever ton niveau de jeu. Regarde, il l'a dit, on n'arrivait pas bien à tenir le ballon. On est l'équipe de France, on va être plus sérieux. Même s'ils ont gagné, ils sont en train de se dire, bah, c'est bon, on a fait un match magnifique, on a fait un match super, il n'y a eu aucune erreur.
Tu es
capable d'analyser, tu es capable d'analyser le montant en puissance.
Okay.
Non, mais je suis pas d'accord.
Je sais que vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet, et c'est aussi l'essence même de cette émission. Guillaume nous appelle au 32-16, il veut participer au débat. Salut Guillaume.
J'ai du sport.
Bonjour.
Alors Guillaume, tranche, toi aussi, est-ce que ça a servi à quelque chose, là, cette balade face au Japon ?
Alors, servi à quelque chose, oui, quand même, hein, oui. Après, on a vu de belles choses, hein, notamment, bon, en attaque, hein, vu le score large. En défense aussi, ça a été très propre. Après, est-ce que c'est vraiment révélateur de la forme du moment, sans vouloir offenser l'équipe du Japon, qui était quand même assez faible. D'ailleurs, ça m'a étonné, je l'ai pensé un cran plus haut, quand même. Je sais pas si c'est vraiment révélateur. Alors, c'est sûr que c'est mieux de le gagner, et d'ailleurs de le gagner avec la manière qu'il y a eu hier soir, hein, avec une large victoire. Est-ce que c'est vraiment un révélateur ? Je sais pas. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est au niveau des fautes, parce qu'on a été pas mal pénalisé sur des jeux au sol, dans des rucks, sur les soutiens. Donc ça, il va falloir faire attention et le régler pour les Blacks. Les Blacks, bon, ça reste les Blacks, même si ils sont peut-être un petit peu en dessous par rapport à leur forme actuelle, on va dire leur forme, comment dirais-je, qu'on leur connaît. Donc ouais, il va falloir régler ça. Ça va être autre chose sur le physique aussi. Donc bon, certes, c'est très bien d'avoir gagné hier. On a vu de belles choses, de nouveaux joueurs aussi, comme Roumat, comment il s'appelle. Lévi, je l'ai perdu. Non. Voilà, merci. Donc voilà, ça a permis de voir de belles choses, de nouveaux joueurs. Voilà. Après, je pense qu'il va falloir élever un peu plus son niveau contre les Blacks, parce que c'est très bien qu'au niveau physique, ça va être très compliqué au niveau du combat aussi. Donc bon, voilà, c'est une bonne chose d'avoir gagné. Oui.
Un petit truc, c'était un bruit de perroquet ou un bruit d'enfant qu'on a entendu juste
derrière ? Non, c'est un oiseau, ah oui, c'est bien une ça, perruche. Ouais.
Hein, parfois, ça peut être strident, c'est pour ça. Je posais la question. Merci Guillaume, reste avec nous. Wilfried, d'ailleurs, est-ce toi qui suis évidemment tout au long de l'année, c'est bleu, est-ce que tu as la sensation d'avoir retrouvé ton équipe de France ?
Non, ce serait aller un peu trop vite en disant ça, d'autant que c'est vrai que les Japonais sont faibles, hein, il faut pas se le cacher, mais c'était une mise en route quoi de tourner. Moi je suis plutôt de ce côté-là. Si on avait joué les Blacks hier, les Blacks qui sortent de 3 mois de compétition, rugby championship, de matchs de tournée déjà, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc c'est mieux de le retrouver la semaine prochaine. Retrouver l'équipe de France, on le saura la semaine prochaine. Voilà.
On en saura un petit peu plus. D'ailleurs, comment va se dessiner la semaine là de notre équipe de France ?
Alors ils sont évidemment off aujourd'hui, ils retournent à Marcoussis ce soir, il va y avoir une montée en puissance jusqu'au milieu de semaine au niveau de l'entraînement, avec des gros entraînements a priori mardi, mercredi, et puis ensuite voilà, on en fera un peu moins sur la fin de semaine, notamment le jeudi, c'est toujours une journée très light, et il y aura l'entraînement du capitaine au Stade de France vendredi après-midi à la veille du match. La question est de savoir aussi dans cette équipe de France si après avoir mis quelques joueurs, quelques titulaires non habituels, on va dire, que fait-on avec Gaël Ficou par exemple, parce qu'il pourrait peut-être revenir au poste de deuxième centre, parce qu'il va falloir quand même de l'expérience, de la défense face aux Blacks. Même chose avec Winnie Antonio qui était cette semaine à Marcoussis, mais qui s'est pas vraiment entraîné parce qu'il avait une blessure au mollet la semaine d'avant. Reviendra-t-il dans le 15 de départ ou moins dans les 23? C'est possible, tout comme Charles Olivon aussi. Ce sera une des questions ou les enjeux de cette semaine. Par contre, attention les Blacks. Hein, moi, je les ai vus jouer en Irlande. Ils ont gagné en Angleterre. Ils ont mis fin vendredi soir à 19 succès consécutifs de l'Irlande à Dublin.
Donc, niveau, ça c'est certain.
Ouais. Et franchement, ils ont des individualités qui font très très mal. Ce sera le 65e match entre la France et la Nouvelle-Zélande. En 64 matchs, on les a battus que 14 fois. Donc c'est quand même toujours un mythe qui débarque à Saint-Denis.
Et ça pourrait faire 3 fois de suite.
Ça pourrait faire 3 fois de suite, ce serait inédit en plus. Mais on se souvient évidemment d'il y a 3 ans, la victoire en Stade de France, incroyable, 40-25, c'était la plus large, plus 15 pour l'équipe de France historiquement. On espère le même feu d'artifice parce que ça avait été une soirée incroyable ce soir-là.
On rappelle quand même que 3 fois sur 4, les Blacks ils jouent très très loin de chez eux quand même. Hein, donc bon, ça faut tempérer un petit peu ce genre de petites séries. On les aura battus 3 fois de suite chez nous avec notre public.
Pardon, ils n'ont qu'à pas habiter aussi loin.
C'est oui, non, mais ça c'est
pas de notre
ça c'est certain. Et pendant très longtemps, ça ne les a pas empêchés de nous mettre des raclés même chez nous. Donc.
Merci Guillaume d'avoir composé le 32-16, d'avoir été avec nous. Merci Wilfried, on te suivra évidemment toute la semaine. Les dernières informations seront à retrouver sur rmcsport.fr pour monter en puissance avant ce match face à la Nouvelle-Zélande. Ce sera toute la semaine évidemment à suivre aussi dans le Super Moscato Show avec Vincent Moscato de 15h à 18h du lundi au vendredi. Allez, nous allons passer à autre chose maintenant. Il est 9h43, vous écoutez RMC. On s'en fout pas dans quelques instants avec le PSG qui continue sa petite balade de santé en Ligue 1. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Simon Dutin, Fred Weiss. À partir de 10h, nous allons vous parler de France-Israël. Ce match de la peur, évidemment. Est-ce encore un match de foot? On se posera la question. Ce sera le bras de fer des GG. Le zapping dans quelques instants, mais juste auparavant, nous allons reprendre la direction des Sables d'Olonne où nous attend notre envoyé spécial Maria Azé. Rebonjour Maria. Pour ce départ des marins, pour ce Vendée Globe, la 10e édition, et les derniers marins qui sont en train de monter à bord de leur bateau.
Oui, tout à fait. Violette d'Orange, la Benjamine de ce Vendée Globe, elle a 23 ans, Violette d'Orange, c'est assez incroyable. Et c'est la dernière à avoir descendu le ponton des Sables d'Olonne et rejoint son bateau avant de partir en mer. Voilà, c'est assez impressionnant de la voir au milieu de tous ces navigateurs qu'on connaît bien, Jean Le Cam, Éric Bélion, tous ces navigateurs. Et elle est née en 2001 et elle part pour 2 mois et demi en mer. C'est assez impressionnant à son âge, elle est très mature, Violette d'Orange. Alors voilà, comme je vous le disais, quelques petits mots, quelques échanges avec la famille avant de partir. Avec Léna Marjac, on a été assez ému par le chien de Sébastien Simon. Sébastien Simon qui était en larmes au moment de quitter son chien. Il était en train de dire, mais c'est pas possible de se mettre dans un état pareil pour un chien. Et bien si, ça nous a beaucoup ému. Voilà, beaucoup d'émotions sur ce ponton au Sable d'Olonne. Et moi aussi, je m'apprête à embarquer là pour rejoindre le départ du Vendée Globe.
Tu l'as déjà fait, Maria ? Tu l'as déjà fait, ça ?
Non, jamais fait. C'est une première aussi.
Je suis pressé de t'entendre tout à l'heure parce que si ça bouge un peu, c'est pas facile si on a un petit peu le mal de mer. Bon courage, Maria, et on te retrouve tout à l'heure. Et je comprends tout à fait qu'on sympa. Puisse pleurer pour un animal, non ? Quand même.
Bah, bien sûr.
Oui. On laisse son chien, on laisse son chat, on laisse sa perruche, comme notre éditeur tout à l'heure. Enfin, je veux dire, il se passe quelque chose, quoi. C'est de l'émotion. Évidemment, 13h02, c'est le grand départ du Vendée Globe. On en reparlera, on aura un débat à 11h. Et puis, Sébastien Simon, qui pleurait donc pour son chien, nous l'avons eu hier durant une demi-heure. Il était l'invité exceptionnel des grandes gueules du sport. Il était passionnant. Vous pouvez aller réécouter ça en podcast. Allez, tout de suite. On s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est donc le PSG qui continue sa balade en Ligue 1. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Ça rapide.
On s'en fout pas.
Ok, Marion Bartoli.
Je m'en fous complètement.
Ok, ça me reconnaît ça.
On s'en fout pas.
Alors battu par l'Atlético de Madrid, vous le savez, en Ligue des Champions cette semaine, le PSG s'est donc rassuré en s'imposant tranquillement à Angers hier soir. Les Parisiens avaient déjà plié le match à la mi-temps, comme le 15 de France. Les Parisiens menaient 4-0 avec un doublé de Lee et de Barcola. Et après la pause, les Parisiens ont géré, ils ont craqué un peu en fin de partie, score final 4-2. Écoutez justement, Luis Enrique, ça a été le débat toute la fin de semaine, le problème offensif du Paris Saint-Germain. Bon, là, il est réglé, en tout cas face à Angers.
Je pense que c'est quelque chose qui dépend de chaque match. Je ne crois pas que ce soit une question de Ligue des Champions ou de championnat. Il y aura un match européen où on va beaucoup marquer. J'ai confiance en mon équipe et nous avons confiance les uns dans les autres. Et je suis sûr qu'on va marquer beaucoup de buts à l'avenir.
Alors, c'était pas Luis Enrique, j'ai pas réussi à reconnaître la voix.
C'est le nouveau Ian Wright, a priori.
Oui, c'est possible. Bon, on retrouvera en tout cas, on lèvera le mystère. Sur le PSG Ligue 1 versus Ligue des Champions, Simon.
Bah, écoute, à part les supporters des autres clubs ou les gens qui détestent le Paris Saint-Germain comme Marion Bartoli, bon, on est tous un peu curieux et dans l'attente. On a envie quelque part de voir que Luis Enrique, non, mais finisse par construire quelque chose. On a envie de que mais ça prenne forme, ce PSG sans Mbappé, sans superstar, sans tête d'affiche. Donc voilà, c'était je trouve intéressant, notamment en première période. Et,
ce résultat.
Oui, mais moi j'entends.
Ce résultat interroge.
J'entends, mais Angers, ils étaient allés taper Monaco, qu'on vendait comme une équipe capable d'aller.
Ils sont en 15e de Ligue 1 quand même, Angers.
Regarde, la semaine dernière, ils sont allés gagner à Louis II contre Monaco, qu'on nous, dans la presse, certains de ces petits joueurs prometteurs disaient oui, on est capable d'aller concurrencer Paris, et nous, les premiers, on se demandait si.
On ne peut pas comparer la Ligue des Champions et une équipe qui est 15e de Ligue 1.
En Ligue des Champions, moi je trouve que la lecture de.
C'est comme si tu comparais le Japon et la Nouvelle Zélande.
Je trouve que la lecture. La lecture de la défaite dans les arrêts de jeu face à l'Atlético, elle est un petit peu trompeuse. Je trouvais qu'ils avaient fait des choses aussi intéressantes.
Tu vas nous dire que Donnarumma est un bon gardien aussi, non? Bah,
écoute, Donnarumma n'est pas un bon gardien, c'est un excellent gardien. Voilà, et tous les excellents gardiens peuvent se trouer. Mais il y a cette finition qu'il faut améliorer. Bon, voilà, au-delà du résultat d'hier et de la première période, moi je trouve également intéressant qu'un Barcola continue de montrer qu'il devient un des mal-alpha de ce championnat et du football français. Donc,
un mal-alpha du championnat. Moi, ce résultat m'interroge énormément. Cette différence de niveau entre le PSG en Ligue 1 et en Ligue des Champions, aujourd'hui, ça ne fait qu'affaiblir la valeur marchande de cette Ligue 1. Parce qu'on nous a vendu, il y a encore 15 jours, on était là avec est-ce que l'OM va pouvoir concurrencer le PSG? Est-ce que Monaco? Non, le championnat, il est joué quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, on n'a plus de stars dans le championnat de Ligue 1, on ne voit pas les matchs et la différence de niveau entre le PSG en Ligue des Champions et en Ligue 1 est en train d'affaiblir ce championnat. Je ne sais même pas où tu le classes parmi les championnats européens.
Oui, mais concrètement, ça, il n'y a pas de surprise dans ça. On ne va pas dire que 15e, je le répète,
parce que,
de Ligue 1,
je m'extrais du sportif, c'est qu'aujourd'hui, la valeur marchande et la pérennité des clubs de Ligue 1 va aussi sur le fait qu'on ait un championnat qui vaille quelque chose. Aujourd'hui, on voit pas les matchs et sincèrement.
Mais c'est sur le sportif que la valeur marchande d'une ligue.
Oui, mais on n'a plus de stars, on n'a pas de tête d'affiche.
On pouvait très bien jouer au foot quand même.
Au-delà des stars, c'est peut-être aussi le niveau et on répète à chaque fois
notre championnat.
Est-ce que ça prépare vraiment le PSG au
championnat?
Mais regarde
Brest et Lille.
Bien
sûr, mais vous avez complètement dérivé sur le débat.
Bah pardon.
Mais on est passé au PSG Ligue des Champions par rapport à PSG.
C'était évidemment, fallait évidemment s'en
foutre. Oui, c'était le retour.
Oui, mais d'accord, mais arrête de faire le faux comme ça à chaque fois, annoncer le débat correctement.
Bah quoi? Pardon Marion, je donne l'information. Le PSG continue sa balade en Ligue 1, donc forcément c'est versus Ligue des Champions. Voilà Marion, tu ne peux pas parler, tu n'as pas le droit parce que tu as dit je m'en fous. Sachez juste que le Paris Saint-Germain est à 29 points, donc toujours leader de Ligue 1. Monaco, qui a gagné hier sur le buzzer face à Strasbourg, est à 23 points et Marseille est à 20 points. Voilà pour les trois premiers de notre Ligue 1. Et ce soir, il y a forcément le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Ça fait deux ans qu'on n'avait pas vu de derby. Vous suivrez ça sur RMC. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Coco Gauff qui remporte son premier Masters. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout, bravo à elle.
Très bien. Sarah Pitkovski.
Non, je m'en fous pas, on a quand même
Marion
des choses
Bartoli.
À dire.
Alors, je m'en fous pas.
Bah oui, j'imagine.
Je m'en fous, je les laisse parler.
Ok, quelle galanterie. L'américaine Coco Gauff, troisième joueuse mondiale, a donc battu la chinoise Zheng hier après une finale magnifique, victoire en 3-7 donc pour l'américaine et plus de 3 heures de jeu. Et à 20 ans, elle est devenue la plus jeune lauréate du tournoi. Vous savez, ce tournoi qui réunit les 8 meilleures joueuses au monde. Depuis Maria Sharapova en 2004, c'est dire la performance de Coco Gauff qui a seulement 20 ans. Marion Bartoli, tu la connais bien en plus.
Je la connais très bien. Effectivement, une magnifique performance, surtout que pour elle, il y a eu ce crève-cœur de ne pas défendre son titre à l'US Open, où elle perd sur une autre américaine. Les débats revenaient autour de son coup droit. Elle a arrêté sa collaboration avec Brad Gilbert. Et puis finalement, on voit quand même toutes les qualités mentales de cette joueuse et de cette jeune fille qui sont absolument exceptionnelles. Je rappelle seulement qu'à 20 ans, elle a gagné dans toutes les catégories de tournois, parce qu'elle a gagné des 250, des 500, des 1000, le Masters et un tournoi du Grand Chelem. Elle a gagné le premier tournoi de l'année à Auckland. Elle termine sa saison en remportant le dernier tournoi de l'année. Elle était menée 5-3, 15-30 dans la troisième manche. Elle arrive à renverser la situation. Elle était menée 1-7-3-1. Donc, elle fait preuve à nouveau de toutes ses qualités de combattante qu'on lui connaît, bien évidemment. Mais il y avait beaucoup de discussion autour des problèmes techniques qu'elle peut parfois avoir, notamment aussi sur sa deuxième balle de service. Et elle a démontré qu'elle était encore capable d'aller chercher tout le monde et de battre tout le monde, parce qu'elle a battu aussi Swiatek sur ce tournoi.
Sarah?
Je vais juste faire un petit cocorico sur cette victoire, parce que son entraîneur est français, c'est Jean-Christophe Forel, qui l'accompagne depuis quelques années.
Coco Goforico, pardon.
C'est dommage de ne pas
avoir.
C'est dommage.
Ouais.
Quand tu fais une vanne comme ça, il faut que le micro soit ouvert.
Je sais pas.
C'est dommage.
Mais pour terminer, il y a une sorte de Big Three qui est en train de se dessiner en haut de la hiérarchie du tennis féminin mondial, et ça, c'est bien.
Donc c'est avec une bonne nouvelle.
Ouais, avec Świątek, avec Sabalenka, avec Coco Gauff. Et on a besoin d'aspérité, on a besoin de tennis différent. Et ça va faire du bien. Ça va faire du bien au tennis féminin qui, même si c'est un sport ultra médiatisé, a du mal à s'affirmer, parce qu'on a du mal à se prendre d'affection pour ces joueuses. Et Coco Gauff va faire beaucoup de bien, parce que c'est une jeune fille engagée qui n'a pas peur de dire les choses. Et elle a dit comment elle se positionnait par rapport à ce Masters qui était organisé en Arabie Saoudite. Elle prend aussi la parole quand elle rentre sur le court aux États-Unis pour défendre des grandes valeurs. Donc voilà, c'est une jeune fille dont on a besoin, que ce soit sur le court et en dehors.
J'ai entendu Marion dire qu'elle prenait un gros chèque. C'est ça.
Oui, bah 4,8 millions de dollars. Première américaine à remporter le Masters depuis Serena en 2014.
Ok, alors ça c'est bien, les 4,8 millions de dollars, mais sachez que sur RMC, c'est la première fois que ça arrive dans notre histoire. Vous pouvez remporter 100 000 euros en nous écoutant, donc il faut nous écouter impérativement pour savoir comment jouer 100 000 euros, c'est à gagner sur RMC. 9h57, on se retrouve dans quelques instants et on va parler de France Israël, c'est jeudi prochain. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.